Et puis, sans transition, voilà, deuxième conférencier de cette première partie de matinée. J'appelle André Grimaldi, que, bien entendu, beaucoup d'entre vous connaissent. D'une part, pour ses travaux alors, en diabétologie, en relations de soins, en éducation thérapeutique. Et puis aussi pour d'autres facettes de son métier de médecin, celui aussi d'homme citoyen politique vis-à-vis de la situation du système de santé actuel. Mais là, André nous prépare un exposé sur « Apprendre à gérer l'incertitude », l'exemple du diabète, deuxième concept de la journée. Merci André.
Merci Rémi Gagnère, merci à Jean-François de Bernois de leur invitation. À traiter un sujet qui d'abord m'a un peu surpris, je me demandais qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment, mais j'ai pris comme diabétologue au premier degré l'incertitude liée à cette maladie elle-même, là, qu'on n'est pas d'abord dans l'univers purement psychique, mais dans l'univers biomédical de nos incertitudes. Alors d'abord je me suis dit il faut peut-être séparer les incertitudes des fausses certitudes, parce qu'au fond la diabétologie c'est une histoire. Ça peut rendre modeste. Alors, je pense à André Jourdan, là, des fausses certitudes, c'est parfois de l'infracognitif, si j'ai compris. Voilà, le chocolat est plus hyperglycémique que le pain. Voilà, ça, c'était une vérité. On a même entendu quelqu'un tout à l'heure, juste avant moi, dire ce qui est sucré, bon, ça ne doit pas être bon pour le diabète. Pas du tout, c'est faux. Le chocolat est moins hyperglycémique que le pain. Voilà. Alors, pendant des années, moi, j'ai un malade qui... 40 ans après, n'a pas pu goûter à son gâteau de communion solennelle, il est encore là. Il s'est coincé. L'apport glucidique doit être diminué chez les diabétiques, c'est faux. Le diabétique de type 1 ne peut pas jeûner, ne peut pas sauter de repas, c'est faux. Mais ça a été très longtemps dans les traités de diabétologie, comme une vérité absolue. Les diabétiques faisant des hypoglycémies nocturnes ont une glycémie au réveil plus élevée. C'était Somogyi qui avait décrit ça, et c'est devenu l'effet Somogyi. C'est totalement faux. Et aujourd'hui, le nec plus ultra, il est prouvé que l'hyperglycémie postprandiale est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, ce qui permet d'emmerder les malades, à mesurer leur glycémie une heure ou deux heures après le repas, et constater qu'elle est mauvaise, et donc à se déprimer. C'est totalement faux. Ce n'est absolument pas démontré. Voilà, donc ça, c'est les fausses certitudes, mais enfin... Alors, les vraies incertitudes, elles concernent beaucoup de choses. Elles concernent les objectifs de la maladie, elles concernent l'évolution de la maladie, elles concernent les effets des médicaments, elles concernent les résultats glycémiques. Alors, on va voir tout ça pour avant de se dire qu'est-ce que ça implique dans l'éducation thérapeutique. Donc, au fond, aujourd'hui, nous devons d'abord être sûrs de nos incertitudes. Il faudrait commencer par là. Alors... objectif de la maladie, ben évidemment, l'objectif, c'est que d'éviter les complications secondaires à l'hyperglycémie, du moins l'objectif médical. Bon, le suivi du patient, ça peut être de se sentir bien, etc., mais l'objectif médical, c'est celui-là. Et on cherche à le faire partager au patient. Très bien. Oui, mais il est évident qu'il y a des facteurs aggravants et des facteurs protecteurs. L'hypertension, c'est un facteur aggravant. Mais les grands myopes, les glaucomateux, ils ont des facteurs protecteurs. Et on connaît tous des diabétiques mal équilibrés qui, au bout de 30 ans, disent « Docteur, je m'excuse, mais ça fait 30 ans que je me gère mal, mais j'ai aucune complication. » Il y a des facteurs génétiques. Tous les diabétiques sont égaux, c'est bien connu, mais enfin, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et puis, au fond, l'évidence de médecine doit tout dire. Et vous savez que pour dire qu'un diabète est mal, bien ou mal équilibré, aujourd'hui, on a un examen, un chiffre, qui est l'hémoglobine A1C. Très bien. Vous regardez la Fédération internationale du diabète. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut une hémoglobine A1C à moins de 6,5, la Fédération internationale du diabète. Vous regardez l'association américaine du diabète. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut moins de 7. Et vous regardez les Anglais, NICE, qui ne sont pas plus stupides, ils disent moins de 7,5. Donc vous voyez que ces certitudes, même en termes chiffrés, sur les mêmes études, scientifiques, objectives, donnent des biais d'interprétation. Au fond, c'est rassurant, c'est-à-dire que les diabétologues ont aussi une subjectivité. Alors par exemple, voilà comment on interprète la grande étude de la diabétologie. Des années 90, l'étude américaine du DCCT, qui était le grand débat historique sur la relation entre l'équilibre glycémique et les complications du diabète. C'était un grand tournant de la diabétologie. Alors, vous voyez, il y a le résultat, et celui-là. Vous avez l'hémoglobine A1C, quand elle augmente, vous augmentez de manière exponentielle le risque de complications du diabète. Parfait. Et donc, conclusion, il n'y a pas de seuil. Plus c'est bas, mieux c'est. Et donc, si vous êtes un diabétologue fanatique de la glycémie, un ayatollah, vous dites le plus bas, moins de 6. Donc, on a fait ça d'ailleurs récemment, on a fait une étude comme ça. Mais des gens de la Boston Clinic, pas de la Joslin Clinic à Boston, pas si bêtes que ça, ils disent non, mais ça, c'est une construction. C'est pas du tout comme ça. En fait, c'est de droite. Et vous voyez qu'il y a un seuil à 8%. Et cette histoire n'a jamais été tranchée. Pour le malade, ça a de grandes conséquences. Hein. C'est énorme, les conséquences. Pour l'étude plus récente à Corse, ça veut dire 22% de mortalité en plus parce qu'ils ont essayé de mettre les diabétiques à moins de 6%. Alors, incertitude sur l'évolution de la maladie. Voilà une maladie, on a la glycémie, on sait que ce sont les cellules B du pancréas qui en sont responsables, mais voilà, les cellules B, on ne les voit pas, on ne les touche pas, on ne les palpe pas, on ne les examine pas, on ne biopsie pas. Rien à voir avec ce qui se passe avec le foie. Alors on invente, on voit. Alors. Et ça, dans le diabète de type 1, comme dans le diabète de type 2. Dans le diabète de type 1, vous avez des formes aiguës brutales, c'est l'insuline, un beau jour et pour toujours. Bien. Puis vous avez des formes qui, avec lune de miel, ah, on peut sursoir à l'insuline, on peut l'arrêter. Puis vous avez des types 1 lents, ah ben, ça sera pour un jour. Et donc vous induisez ni plus ni moins qu'un syndrome de Damoclès. C'est-à-dire un jour, peut-être, je vois ma glycémie et paf, ça sera la piqûre. Donc, ce qui est un bon moyen, moi, un jour, un malade m'a dit, mais comment je peux rester en rémission? J'étais jeune, et à l'époque, on faisait ça, on cherchait ça. Alors, je lui ai dit, la meilleure façon, c'est d'être très bien équilibré, diminuer les besoins insuline, donc faire du sport. Le type s'est mis à courir comme un dératé tous les jours. Bon, avec la seringue derrière lui, qui se rapprochait, sa femme m'a dit, il ne pense plus qu'à ça, il a perdu le goût à la vie, il ne fait plus que courir. Bon, j'ai dit, faut qu'on arrête. Faut vite qu'il mette insuline, qu'on arrête, qu'il puisse vivre. Bon, donc... voilà, diabète de type 2. Diabète de type 2, c'est aussi une maladie de la cellule B. Qualitative, quantitative, il y a plein de débats, mais enfin, en gros, comme on ne biopsie pas, comme on ne mesure pas, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Alors, il y a une aggravation progressive de cette insulino-déficience. Au fil du temps, ça s'aggrave. Alors, pendant des années, on a dit, c'est la faute au patient, il ne suit pas son régime. Non. C'est une maladie du pancréas qui évolue pour son propre compte. Fort bien, on aime les chiffres, on dit l'hémoglobine A1C qui mesure ça, s'élève de 0,2 par an. Oui, mais c'est très variable, c'est de la statistique, ça. Il y a des patients parfaitement stables, enfin, ou assez stables, puis d'autres pas du tout. Alors ça varie entre plus 0,1 ou plus 0,4. Bon, et on ne sait pas bien pourquoi, au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, une incertitude de plus. C'est-à-dire que le diabète de type 2, son angoisse, c'est quoi? C'est, est-ce qu'un jour j'aurai de l'insuline? Est-ce que vous pouvez me le dire? Oui, mais enfin, vous voyez, la variation est considérable. Alors, incertitude sur les médicaments. Alors là encore, c'est vraie incertitude. Le Mediator, vrai coup fin, présenté comme un médicament antidiabétique, c'est en fait une vraie tromperie. Donc ça n'a rien à voir avec notre sujet. Les médicaments sont mis sur le marché sur 3 critères. 1, en fonction de leur efficacité. Il faut qu'ils baissent l'hémoglobine A1C et les Anglais, qui sont des gens pragmatiques, ils disent d'au moins 0,5. Autrement, poubelle. 2, il faut qu'ils soient additifs, c'est-à-dire vous associez avec des médicaments qui existent, ça s'ajoute. 3, font une sécurité à court terme, c'est-à-dire quelques milliers de patients sur 6 mois à 1 an. Point final. C'est avec ça que vous êtes sur le marché. Quel est votre effet sur le cœur? Ça, on verra plus tard, dans 5 à 10 ans. Quelle est votre sécurité à long terme? Ça, il n'y a que le long terme qui vous le dira. Hein? Donc, tout médicament nouveau est une incertitude absolue. Alors après, il y a des variabilités de tolérance et d'efficacité. Alors, on commence à rentrer dans la compréhension de ça. Hein? Pendant longtemps... D'un point de vue génétique, le diabète de type 2, c'était un cauchemar. On appelle ça le cauchemar génétique du diabète. Maintenant, grâce aux moyens puissants de la génétique, de la pangénétique, on sait qu'il y a 40 gènes impliqués. Puis on commence à découvrir pour des médicaments des gènes qui disent que ce médicament peut être efficace ou ce médicament peut être toléré. Bon, on peut rêver un jour de pouvoir distinguer ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On essaye, quoi. On fait la technique, les diabétologues, leur stratégie, c'est celle de l'artilleur. Ils tirent, ils regardent où ça tombe, ils disent même trop court ou trop long, rajustez le tir. Bon, et tirons. Voilà. C'est ça. Là. Alors, incertitude sur la glycémie. La phrase de tous les diabétiques, c'est « ma glycémie, elle fait le yo-yo ». Voilà. C'est la variabilité glycémique. Et au fond, on a un vrai problème parce que la déficience du diabète, on croit que c'est l'hyperglycémie, et il faudrait rajouter « indissociablement variable ». Tous les diabètes sont instables. La glycémie, le fait qu'on est diabétique, c'est qu'on a perdu la stabilité de la glycémie. Alors, évidemment, ça ne va pas être vécu de la même façon pour les uns et par les autres. Alors, regardons la glycémie dans laquelle le diabétique va mesurer pour adapter son traitement. Cause de variabilité de la glycémie. Premièrement, on a des appareils de mesure, très bien, mais dont la précision est de plus ou moins 0,20, ce qui m'amène certains patients à dire pourquoi ma glycémie de la main droite n'est pas la même que celle de la main gauche. Ils font deux fois la glycémie, ils trouvent différence, évidemment. C'est lié à variabilité de l'appareil, sans une précision moyenne. Ensuite, la complexité des paramètres. Regardez une glycémie postprandiale, de quoi elle dépend? Elle dépend de la glycémie avant le repas, mais pas seulement. De la cinétique des glycémies des 2-3 heures qui précédaient le repas. Donc il faudrait savoir si c'était stable, ça baissait, ça montait. Bien. De l'existence éventuelle d'une hypoglycémie dans les 12 à 24 heures précédentes. Si vous avez une hypoglycémie dans la nuit, votre glycémie après le petit-déjeuner sera très haute. Pas celle du réveil, mais celle d'après le petit-déjeuner, oui. De l'activité physique passée. De la quantité de glucides ingérés. De l'index glycémique. Si c'est des lentilles, rien à voir avec la semoule. La semoule, c'est hyperglycémiant, lentille beaucoup moins. Ça dépend s'il y a des lipides, ça dépend de l'alcool, ça dépend du transit gastrique, ça dépend du délai de la mesure, 1 heure, 2 heures ou 3 heures, c'est pas pareil, et du moment de la journée. Ça fait beaucoup. Rajouter la variabilité de l'insuline. Alors, on a eu et vécu avec l'information des laboratoires, basée sur la pharmacocinétique et pas la pharmacodynamique. La pharmacocinétique, c'est quoi? C'est l'histoire de vie mesurée du médicament dans le corps. Dites, la demi-vie, c'est ça, la durée, c'est ça, le délai d'action, c'est ça, etc. La pharmacodynamique, c'est quoi? C'est ça qui nous intéresse. C'est la puissance d'action et la durée d'action du médicament. Et éventuellement, rien à voir avec la pharmacocinétique. Par exemple, je vous donne un exemple. On a dit dans la diabétologie qu'il fallait prendre le Daonil, sulfamine, en 3 prises, parce que la demi-vie est très courte, quelques heures. Ouais, la durée d'action, c'est plusieurs jours. On peut tout prendre en une fois. Bon, mais qu'est-ce qu'on a emmerdé les diabétiques à prendre 3 fois par jour? La durée d'action varie avec la dose. Petite dose, petite durée d'action. Ce qui fait que selon les patients, vous avez eu une injection ou 2 injections. La Lantus, par exemple, qui est censée couvrir 24 heures, ne les couvre pas. Donc vous faites, chez 80 ou 70 à 80% des patients, une seule injection, ça va. Mais pour 20 à 30%, il faut 2 injections. La reproductivité intra-individuelle chez le même patient. Alors, une insuline rapide, ça varie quand même de 10%. Une insuline, un analoglan, ce qui est de mieux reproductible qu'avant, c'est 15 à 20%. Mais ça veut dire que quand vous injectez 20 unités, en fait, un jour, c'est comme si vous injectiez 16 et le lendemain, 24. Donc, votre traitement est instable et incertain. C'est agréable. La sensibilité à l'insuline est très variable d'un patient à l'autre. En moyenne, une unité d'insuline sous-cutanée, une insuline rapide, ça baisse de 0,30 g par litre. Mais en moyenne, en vérité, 0,10 pour certains, donc il leur faut faire 10 unités pour baisser d'un gramme, et pour certains, une seule unité les baisse d'un gramme. Donc ils ont un diabète très instable. Ils ne font pas d'insuline, paf, les voilà à 3 grammes, ils font très peu d'insuline, les voilà en hypo. Conclusion générale d'un médecin, c'est dans la tête. Alors, le vrai sujet maintenant, mais on est obligé de dire ça. Parce que si on ne dit pas le biomédical, on flotte, on est dans le relativisme, tout est variable, la vie est variable, tout est incertain, moi aussi. Bon, et avec ça, on a... D'accord. Enfin, il y en a un qui est malade et pas l'autre. Alors, conséquences pour l'éducation thérapeutique. 1, ne pas provoquer l'instabilité par un traitement inadapté. Parce qu'on peut en rajouter sur l'instabilité. Si vous voulez qu'un diabète insulino-dépendant soit à peu près inéquilibrable, vous mettez une dose de lente très élevée. Comme ça, le malade, il est en hypo à distance des repas, et au moment des repas, s'il fait un peu d'insuline, pas assez d'insuline, il sera en hyper. Donc, il est foutu. Ou une insuline lente trop courte. Alors là, il y a un échappement glycémique. Toutes les fins d'après-midi, il a 3 grammes, et on lui dit que c'est sûrement sa faute. Bon. Ne pas aggraver la variabilité par une technique imparfaite. Bon, on connaît les zones de l'hypodystrophie où l'insuline se résorbe mal, une mauvaise évaluation des glucides. Donc, ces deux points nécessitent une espèce de perfection où ça, je veux dire, c'est des valeurs qui viennent du passé, au fond. Avant, on se bourrait complètement dans des dogmes, mais il y avait une logique de la perfection du dogme. Là, le danger, c'est comment on a d'avoir aboli les dogmes, c'est d'oublier la perfection. Il y a une rigueur technique qui doit être contrôlée, vérifiée, qui se perd avec le temps, qu'il faut entretenir. Autrement, on en rajoute des couches et après, on a une interprétation éventuellement psychologique. Alors, apprendre à interpréter une glycémie en prenant en compte les différents déterminants. Vous avez vu la liste, pas facile. Apprendre le raisonnement statistique, se méfier des explications causales a posteriori. Moi, je suis toujours frappé, comme c'est un tel bazar. Quand vous voyez un carnet de diabétique, c'est un truc... Bon. Mais les gens, ils ont toujours une explication, les médecins aussi. Alors, ma glycémie était trop basse. Oui, mais la veille au soir, finalement, je suis engueulé avec ma femme, ça doit sûrement être ça. Bon. A posteriori, on explique toujours tout, parce que là, on voit le besoin d'explication. Il y a un besoin pour toute chose incompréhensible qui est une causalité. Et on la trouve. On la trouve forcément. Évidemment, a posteriori, c'est facile. Du coup, apprendre à faire des expériences. Hein, beaucoup de patients ont l'impression que... Alors, discuter avec eux des modalités d'une expérience où rien ne doit changer, sauf le paramètre qu'on étudie. Et on peut faire des expériences sur soi, à condition de les répéter de manière aléatoire, plusieurs, de pouvoir les interpréter. Apprendre par la vie. Parce que il y a, par exemple, qu'est-ce que ça fait l'activité physique dans le diabète? Tout le monde dit que ça fait des hypoglycémies. Oui, mais parfois ça fait des hyperglycémies. Ouais, j'avais un mec qui avait remarqué que quand son pouls montait au-dessus de 110, c'était l'hyper. Quand le pouls était au-dessus de 110, c'était l'hypo. Et il avait raison. Bon, qu'est-ce que ça fait le stress? Ça fait de l'hyper, mais ça fait aussi de l'hypo. Qu'est-ce que ça fait l'alcool? Bon, et ça, c'est un peu variable, personne à l'autre. Donc apprendre sur soi, repérer. Et l'enjeu n'est évidemment pas complètement négatif. Anodin. Apprendre la double adaptation du traitement. Au fond, on a un traitement qui est un pari en permanence. Hein, on fait les doses d'insuline en fonction d'un certain nombre de paramètres, et avec ça, on se dit, je fais le pari que quelques heures plus tard, je serai dans la zone souhaitée. Et ce pari, au mieux, avec les traitements actuels, on le gagne une fois sur deux. Donc ça veut dire qu'une fois sur deux, on le perd. Donc ça veut dire qu'il faut corriger. Il n'y a pas beaucoup de traitements aussi médiocres. Vous faites tout. Et au mieux, une fois sur deux, vous êtes dans la cible. Bon, et puis si vous avez un médecin qui vous explique que les autres maladies sont systématiquement, vous avez quoi, vous déprimez complètement. Donc il faut une double technique de traitement. Un traitement prédictif et un traitement curatif. Alors on mesure ponctuellement pour savoir, mais quand on mesure sa glycémie au bout du doigt, c'est pour agir, qu'on la mesure régulièrement. C'est pas pour savoir, c'est pour agir. Hein ? Autrement, il y a une technique spéciale, c'est mesurer votre glycémie tous les matins après le petit déjeuner, surtout faites rien, et on en parlera dans 3 mois. Ça, c'est un modèle expérimental d'anxio-dépression que je vous recommande. Alors, conséquences pour l'éducation thérapeutique. Il faut que des enseignants ayant une grande connaissance, non seulement théorique, mais aussi pratique du traitement et des aléas du traitement. Donc, il faut être compétent en thérapeutique. Au fond, l'éducation thérapeutique, elle pose plein de problèmes sur le mot éducation, mais elle n'en pose pas de problème sur le mot thérapeutique. Bon, il faut une compétence thérapeutique grande. Il faut être capable de simplifier des messages, parce que vous avez vu ce truc infernal. Donc, il faut pouvoir simplifier. Il faut que ce soit adapté à la personne qui est en face de vous. Bon. Il faut encore, une fois qu'on est là-dedans, ne pas réduire le malade à des chiffres. Parce que c'est très tentant de « comment vous allez ? Ma glycémie va bien. » Non, ce n'est pas ça que je vous demande. Je demande « comment vous allez ?» Bon, il y a une tendance à le malade n'est plus qu'une valeur moyenne de glycémie, d'écart type. Et dans ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle, il y a un truc de cinglé qui est cette technique de traitement est réservée aux bons en maths. Bon, ça, c'est la règle de 3. Et la règle de 3 évoquée pour plein de patients, c'est complètement affolant. Ça rappelle des souvenirs dramatiques. Alors, conséquence pour les questions thérapeutiques, c'est donc cette maladie est incertaine, son évolution est incertaine. Et le traitement est complètement incertain, instable, variable. Alors, conséquences psychologiques pour un patient, ça dépend des patients. Pour un analysant obsessionnel, moi j'ai des patients, vous devez en avoir ceux qui sont diabétologues ou qui fréquentent la diabétologie ici, ont sûrement des patients qui ont mis ça en équation. Alors, des équations bizarres, avec des racines carrées, des soustraits, la dose 2, moins que, etc. Et ça marche très bien, disent-ils. Ils sont ravis de l'amener parce qu'ils proposent d'ailleurs qu'on la diffuse à l'ensemble des diabétiques. Alors, c'est des obsessionnels heureux de cette instabilité. Ils ont trouvé... Bon. Et puis, il y a des aigris, parce que non, ceux qui n'y arrivent pas. Bon, pareil, pour un contrôlant, ça peut être fantastique de faire 10 glycémies par jour, un peu plus, et d'affiner tout ça au pile-poil. Et puis, ça peut être complètement exaspérant, parce qu'il n'arrive pas à contrôler, il envoie tout promener, parce que c'est insupportable. Le perfectionniste, donc, peut être comblé ou déprimé. L'impulsif, lui, il aime agir, il est prêt à faire des piqûres, mais à injecter l'insuline, mais il ne supporte pas de mesurer et de calculer. Donc, ça fait pas mal de coma hypo. L'hyper-optimiste ou aquaboniste dit, bon, finalement, quoi qu'on fasse, mon cher docteur, franchement, bon, tant que le traitement sera ce qu'il est. Et puis, il y a le débordé ou l'altruiste qui, de toute façon, a autre chose à faire que de compter et de s'occuper de lui-même. Et puis, alors, pour l'impulsif, hyper-optimiste, débordé, altruiste, vraiment, c'est très difficile, très, très difficile. Voilà. Alors, la question que je vais poser, c'est, au fond, l'incertitude, pour vous, c'est un facteur de motivation ou de démotivation? Alors, on peut doubler. Si c'est oui ou non, on va dire de motivation, oui ou non. C'est un facteur de motivation. Le fait que c'est incertain, c'est un facteur, cette instabilité du traitement, ces incertitudes, c'est un facteur motivant ou démotivant? Je vous donne une information quand même pour parce que tout le monde va dire démotivant avec ce que j'ai dit, le ton que je l'ai dit en plus. Mais ce n'est pas évident. Regardez un truc simple qui marche bien, les statines. Les statines, la démonstration aujourd'hui, très peu d'effets secondaires, absolument pas de cancer augmenté, vous gagnez 2 années de vie en moyenne statistique. C'est énorme, énorme. Dans l'étude WOSCOP, qui est la première étude qui a démontré qu'en prévention primaire, les statines étaient efficaces, on a été l'étude tellement c'était spectaculaire, des listes de patients, mais une anecdote, par exemple, un chirurgien vasculaire qui a ponté des diabétiques, amputé des diabétiques, qui connaît le diabète, lui-même triple ponté, ne prend aucun médicament, mais adressé pour rétinopathie diabétique. Il rentre dans mon bureau de consultation en levant les mains en l'air, en disant « je me rends hein ». Et vous avez comme ça bon, cette difficulté parce qu'ils sont dans les certitudes, ils sont dans l'image de et les voilà confrontés à l'incertitude et l'impossibilité de la gérer. Hein ? Non, non, l'incertitude n'est pas, je ne sais pas, un sentiment de flou, et le patient se dit, autre variante actuelle absolument insupportable, c'est le malade va voir le chirurgien, qui lui explique qu'il faut peut-être opérer sa hanche, qui lui donne les avantages, les inconvénients, et qui dit, maintenant, vous choisirez. Et le patient sort complètement paumé, en disant, mais à qui je peux m'adresser pour qu'il me dise ce que je dois faire ? Bon, hein, il y a besoin, effectivement, d'une confiance. Voilà.
Merci beaucoup, André.